rappelle qu'ici, voilà, Noël approchant, vous avez des DVD pour les enfants. Ça, c'est un livre réservé aux copines. Tel que tu es super pour les enfants. Peut-être que des adultes se feraient plaisir de le lire. Manger, bouger et s'amuser. Non pas simplement manger et s'amuser. Manger, bouger et s'amuser. Ce qu'ont besoin de faire les enfants. Voilà, en tout cas, écoutez, ça c'est là. Et tout ceci représente la vie d'une église. Les gens ne se rendent pas compte qu'effectivement, nous associons à une église. Mais c'est vraiment pour avoir une vie de la foi en communauté. Et c'est quelque chose qui est tellement beau et appréciable. Plus je comprends l'église locale, plus je vois la sagesse de Dieu. Plus je vois la sagesse de Dieu d'être attaché à une église locale à laquelle on s'identifie, dans laquelle on trouve sa place et dans laquelle on entend des projets de la foi. J'espère que dans votre vie personnelle, vous avez des projets de la foi. Il y a des objectifs que vous êtes mis devant, il y a surtout devant Dieu, et qu'ensuite vous apprenez à connaître Dieu, à coopérer avec Dieu, comme je l'ai enseigné dans... C'était vraiment un bon message, Dieu est souverain. Oui, mais Dieu a choisi de ne pas se passer de la coopération, de la collaboration de l'être humain. Et on peut dire, hein, quand on marche avec Dieu pendant pas mal d'années, eh bien, on peut dire que c'est vraiment une aventure. Les gens qui croient que la vie chrétienne est une vie qui est plate, qui est morne, qui est morte, qui est moche, méchante, eh bien, ce sont des gens qui me révèlent qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce que marcher avec Dieu, cela veut dire se laisser emporter dans une aventure de la foi. Dans une aventure dans laquelle on apprend à faire confiance en un Dieu qui est invisible, mais qui est tangible et qui est fidèle. Puisque rien de ceci n'était mon message, en revanche, Pasteur Marc m'a donné une belle introduction, puisque je vais exactement dans ce sens-là. Le titre de mon message, c'est « Ce que la sortie d'Égypte nous apprend ». Ce week-end est tout à fait particulier parce que nous allons pouvoir manifester notre soutien, notre fraternité, notre solidarité à la communauté juive. Nous allons avoir la possibilité de bénir Israël également à travers l'association Nekba. Et une chose qui est certaine, et je l'ai vu, ça je l'ai entendu, mais je peux dire que c'est vrai, nous le vivons, que celui qui bénit Israël est béni. Quand nous faisons un geste tangible envers Israël, et la terre est indissociable du peuple, eh bien nous pouvons nous attendre à la bénédiction. Nous pouvons nous attendre, hein, et peu de gens comptent ce qu'ils donnent, ce que nous donnons, parce qu'à vrai dire, il est difficile de compter ce que nous donnons. Nous donnons bien par des dîmes et des offrandes, mais nous donnons de notre temps, nous échangeons des mots d'encouragement, etc. Nous faisons des voyages en Israël. Il y a mille et une manières de bénir Israël, mais nous savons qu'il y en a un qui est tellement précis dans les comptes, qu'il connaît le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Et lui est celui qui a promis de bénir celui qui bénirait Israël. Alors, on peut être candidat. On va dire, moi, je suis sur la liste de ceux qui sont bénis. Je suis sur la liste. Amen. Est-ce que vous êtes sur la liste? On peut y être, hein. On peut y être. Mais en tout cas... La Bible nous dit, alors vous voyez des passages, mais il se trouve que Frédéric qui était avec nous tout d'un coup a eu une grosse douleur qu'il qualifie d'insupportable dans un pied. Donc ils sont en train de l'aider et voir comment ils peuvent l'aider. Donc c'est pour ça que vous voyez quelques allées et venues, mais ça va certainement s'arranger. C'est assez inexplicable cette raison, cette douleur-là, mais en tout cas, ça va s'arranger. Alors, la Bible nous dit, vous pouvez le lire notamment dans 1 Corinthiens chapitre 2, mais je vous le cite simplement, que la Bible nous dit que ce qui est arrivé au peuple d'Israël devrait nous servir d'exemple à nous, les chrétiens, qui sommes nés de nouveau, c'est-à-dire qui en vont accepter de s'approprier le sacrifice de Jésus-Christ en croyant que ce que Jésus avait porté à la croix comme jugement n'était pas pour ses péchés, parce que la Bible dit « il était sans péché », mais le jugement qu'il a porté était pour mes péchés, nos péchés. Quand nous nous approprions cette croix, quand nous nous approprions le sacrifice de Jésus et que nous réalisions qu'à cause de nos péchés, nous aurions dû aller en enfer, mais parce qu'il est allé, lui, en enfer, nous n'avons pas besoin d'aller, et que la vie éternelle qui nous reste à passer est avec Dieu, dans la présence de Dieu, ça nous pouvons dire merci. Mais le Seigneur s'est suscité un peuple, et Dieu, l'éternel Dieu a voulu se révéler à l'humanité, l'humanité qui s'était entièrement séparée de Dieu. Je fais juste un bref résumé. Quand Dieu a placé l'homme et la femme sur la terre, eh bien, ce premier couple était tellement conscient de la présence de Dieu. Vous savez, quelquefois, on est tellement conscient de ce que l'on est en train de dire à quelqu'un qu'on oublie une tierce personne qui vient d'arriver. On peut être tellement occupé à ce qu'on est en train d'écrire, peut-être, qu'on n'entend pas ce qu'on est en train de nous dire, tellement on est conscient de soi. Eh bien, Adam et Ève étaient tellement conscients de Dieu qu'ils n'étaient pas conscients d'eux-mêmes. Et la Bible nous dit qu'ils ne réalisaient même pas qu'ils ne portaient pas de vêtements, qu'ils n'étaient pas nus. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas le sentiment de honte, c'est pour cela. Mais il se trouve qu'Adam et Ève ont remis en question l'amour que Dieu avait pour eux, la vérité qu'il leur avait présentée, et ils ont douté de son amour. À partir de ce moment-là, ils ont été plongés, ils ont été séparés d'avec Dieu. Séparés d'avec Dieu, c'est-à-dire séparés de la révélation, séparés de la lumière, séparés de la sagesse, séparés de la vie, séparés du futur, séparés de la santé, etc. Et ils se sont retrouvés en train de se débrouiller à vivre seuls, sans Dieu sur cette terre. Le résultat de la confusion, de l'injustice, des maladies que nous voyons sur cette terre, c'est le résultat de la vie sans Dieu, loin de Dieu. Voilà ce qui se passe. Quand nous faisons notre vie sans Dieu, eh bien nous sommes plongés dans la confusion, nous sommes plongés dans le manque d'espoir, un manque de sagesse. Et oui, il y a des réussites. Mais vous savez, Dieu ne veut pas qu'on réussisse dans un domaine au détriment des autres. Dieu veut que l'on prospère dans tous les domaines à la fois. Ça, c'est la prospérité selon Dieu. Et donc, comme l'être humain, Adam et Ève se sont multipliés dans cet état de séparation d'avec Dieu, les enfants qu'ils ont eus n'avaient pas la conscience de Dieu et étaient séparés d'avec Dieu. Dieu n'a pas souhaité que cela perdure. Donc ce qu'il a fait, il a envoyé son propre fils, il a envoyé Jésus afin de nous montrer le chemin qui nous ramène à Dieu. Et Jésus d'ailleurs a dit « Je suis le chemin ». Et donc, quand le Seigneur a envoyé Jésus, eh bien depuis, chaque être humain peut retrouver une amitié avec Dieu. Mais en attendant, Dieu n'est pas resté sans se révéler. Dieu s'est suscité un homme, Abraham. À travers Abraham, il s'est suscité une nation qu'il s'est gardée pour lui-même, qu'il a mise à part, qui est le peuple juif. Alors là, je fais un gros raccourci, hein, mais c'est pour aller vers ce que j'ai sur mon cœur. Et la Bible nous dit que ce qui est arrivé au peuple juif devrait être un enseignement pour nous. Vous savez, il y a plusieurs manières d'apprendre sur cette terre. On peut apprendre par l'exemple de quelqu'un, on peut apprendre ce qu'il est bien de faire, on peut aussi apprendre ce qu'il n'est pas bon de faire. Apprenons des autres ce qu'il n'est pas bon de faire. Inutile d'apprendre par expérience. Parce que si on n'apprend pas en voyant ce qui se passe, alors on risque de l'apprendre par notre propre expérience. Et elle n'est pas forcément toujours agréable, celle-là. Donc, pour nous, Église, nous pouvons voir comment Dieu a manifesté sa fidélité envers Israël. Et quand nous voyons comment il a manifesté sa fidélité envers ce peuple, alors nous sommes assurés que ce même Dieu qui se révèle comme étant fidèle le sera envers chacun. Et là, ici, ce que nous allons voir, ce que nous pouvons apprendre quand le Seigneur a délivré le peuple d'Israël d'Égypte. Y aurait-il quelque chose qui nous enseignerait à nous, chrétiens ? Je vous propose d'ouvrir votre Bible dans Exode au chapitre 5. Exode au chapitre 5. Oui, chapitre 5, verset 1. Alors ici, le Seigneur, il se trouve qu'il y avait, à un moment, il y avait une famine sur la terre où se trouvait le peuple, et le Seigneur leur a montré comment s'en sortir. Il leur a dit, bien, vous allez descendre en Égypte, parce que là-bas, il y a beaucoup de blé, il y a beaucoup d'abondance, et vous allez, eh bien, demander l'hospitalité. Et c'est ce qui s'est passé. Et le pharaon a été très content d'avoir le peuple juif chez lui, parce que grâce à cela, l'Égypte a prospéré. Mais il se trouve que le pharaon, c'est-à-dire le dirigeant suprême de l'Égypte, a changé et son cœur s'est endurci envers les Juifs. Alors, le Seigneur s'est suscité. Quand le Seigneur a besoin d'envoyer la délivrance, il se suscite des gens. Et là, le Seigneur s'est suscité Moïse. Moïse qui avait des origines juives. Et puis, le Seigneur lui a dit, « Eh bien, tu iras vers Pharaon et tu lui diras, au verset 1, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple, afin qu'il célèbre une fête pour moi au désert. » Alors ici, on voit que le Seigneur est en train de mettre son titre de propriété sur le peuple juif. Le Seigneur l'appelle « mon peuple ». Et ensuite, il est en train de dire à Pharaon, « Pharaon, je veux que tu les libères afin qu'ils fassent ce qu'ils sont appelés à faire, c'est-à-dire à m'adorer. » Ici, la fête était une fête d'adoration. Pour nous qui sommes chrétiens, eh bien, nous savons que dans la symbolique biblique, l'Égypte représente le pays des ténèbres, l'état de séparation dans lequel nous étions avant d'accepter Jésus-Christ à la croix. Et quand nous sommes sortis des ténèbres, eh bien, ce même appel, il y a des parallèles qui sont établis entre le peuple juif et l'Église. L'Église n'est pas le peuple juif, le peuple juif n'est pas l'Église, le peuple juif a des promesses, l'Église a elle aussi des promesses. L'Église ne remplacera jamais, jamais, jamais le peuple juif, et le futur va nous le prouver. Hein. Mais ici, nous voyons des parallèles. Tout comme le peuple juif était appelé à sortir du pays d'Égypte pour adorer Dieu, l'Église est sortie du monde, est sortie des ténèbres spirituelles, elle aussi pour apprendre à adorer Dieu. Nous avons été sauvés de la mort, mais nous avons été sauvés pour la vie. Pourquoi est-il important de parler de cette adoration ? Bien, une des choses que l'on peut dire concernant l'adoration, c'est que nous ressemblons à ce que nous adorons. Nous ressemblons au Dieu que nous adorons. Et ça, c'est quelque chose que le diable ne veut pas. C'est que l'Église adore Dieu et dans cette adoration expérimente une transformation qui fait ressortir l'image de Christ qui est en nous. Parce que c'est ce que fait l'adoration. C'est important. Vous savez, nous avons ces moments d'adoration pendant des cultes et à d'autres moments. Et quelquefois, on peut avoir tendance à penser que ça n'est qu'un rituel dans un culte. Bah oui, c'est ce que l'on fait à l'église. D'abord, ça n'est pas que ce que l'on fait à l'église et ça n'est pas non plus quelque chose que l'on fait uniquement à l'église. Mais où que nous adorions, le but de l'adoration est de nous transformer pendant ces moments de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Il n'y a pas de limite à la gloire que l'on peut expérimenter. Et au bout du compte, c'est l'image de Christ qui ressort. Est-ce que vous croyez que le diable a envie que ces choses se passent? Non. Alors il fera tout pendant l'adoration pour nous distraire, pour nous rendre conscients de nous-mêmes, alors que pendant l'adoration, c'est intentionnellement, nous devenons conscients de Dieu à travers les paroles et les mélodies. Donc ça, c'est une chose que l'on peut voir ici, c'est que le Seigneur nous a fait sortir des ténèbres afin que nous adorions, que nous l'adorions. Alors, Dieu ne cherche pas à être adoré parce qu'il est plein lui-même. C'est un narcissique, c'est quelqu'un qui dit « Et moi, regardez comme je suis beau !» Non, non, il veut être adoré parce qu'il veut notre transformation. Et la transformation du chrétien, c'est celle d'expérimenter la victoire de Christ dans tous les domaines de notre vie. Tous les domaines de notre vie. Même ce qui semble irréalisable, même ce qui semble impossible, parce qu'on aurait tendance à dire « Non, mais c'est pas moi !» Vous savez, si c'est Christ d'être patient, alors c'est toi d'être patient. Tu as juste besoin de découvrir qui tu es maintenant que tu es en Christ et qu'est-ce qui peut sortir de toi puisque c'est la patience est déjà en toi. Ça, c'était une parenthèse. Donc, l'adoration est tellement importante que Pharaon a estimé que cette adoration était une menace pour son pays. Qu'ils adorent un autre Dieu parce qu'on adore quelqu'un qui nous est supérieur. Ils étaient en train de dire à Pharaon, tu n'es pas supérieur. Nous connaissons quelqu'un qui est supérieur au Dieu football. Je vois que certains se réveillent. Hein? C'est-à-dire qu'ils étaient en train de dire, tu es supérieur au Dieu argent. Tu es supérieur au Dieu da-da-da, quelles que soient les idoles qu'il y ait dans ce monde. Et Pharaon a pris cet appel comme une véritable menace. Et puis ensuite, verset chapitre 8, verset 21. Alors Pharaon a refusé, hein. Il a refusé, il dit non, 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 non. Le Seigneur a fait des actes de puissance et plus le Seigneur était en train de montrer sa puissance à Pharaon, plus il était en train de confronter à Pharaon, lui disant « Tu n'es pas Dieu ». D'ailleurs, chaque fléau qui a été envoyé en Égypte représentait une idole, les mouches, les grenouilles, etc. C'était des dieux égyptiens. Et Pharaon était au-dessus de tout, puisque son titre fait qu'il était, c'était le roi soleil, quoi, l'équivalence de notre roi soleil. Hein. C'était Dieu. Mais le cœur de Pharaon s'est endurci. Le cœur de Pharaon a refusé de céder son trône à Dieu. Verset 21, vous avez trouvé, vous êtes avec moi? Pharaon appela Moïse et dit, allez offrir. Donc là, il fait un pas, il commence à céder un petit peu de terrain. Et il dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Or, le Seigneur n'avait pas dit à Pharaon, laisse mon peuple m'adorer en Égypte. Il avait dit, laisse partir mon peuple. C'est-à-dire, je veux que mon peuple sorte d'ici. Parce que personne qui est dans les ténèbres ne sait et ne peut adorer Dieu. Ça n'est que quand nous sommes unis à Christ, quand nous l'avons accepté, que nous expérimentons la liberté totale pour, au point que nous adorions Dieu pour qui il est. Et là, ici, on voit que Pharaon est en train de dire, eh bien, non, il va adorer, mais je vais juste faire, allez, on va négocier un peu. Ils vont adorer dans le pays. Vous savez, si le diable peut nous amener à faire des petits changements quand on connaît la volonté de Dieu, sans que ça dérange de trop, lui, il sera très content. Or, quand nous sommes sortis du pays des ténèbres, quand nous sommes sortis de notre état de séparation avec Dieu, mes amis, ce n'est pas pour accepter des petits changements, pour satisfaire le monde, pour satisfaire notre confort, pour satisfaire le standing de notre société. Le diable ne sera jamais dérangé par nous avec les petits changements que nous lui concédons. Faire la volonté de Dieu exige une consécration entière. Et puis le verset 24, alors, donc, Pharaon refuse, il y a un fléau, verset 24, Pharaon dit, « Bon, je vous laisserai aller sacrifier à l'Éternel votre Dieu dans le désert, seulement, vous n'irez pas plus loin. Intercédez pour moi. » À nouveau, ici, on voit que le Pharaon est en train de dire, « D'accord, mais je vais vous laisser faire la volonté de votre Dieu, mais à mes conditions, à moi. » À nouveau, nous ne sommes pas sortis des ténèbres pour faire des compromis. Nous sommes sortis des ténèbres pour servir Dieu. C'est le verbe qui revient et qui revient et qui revient et qui revient à travers ce passage. Nous sommes sortis des ténèbres pour servir Dieu. Mais mes amis, cela exige une consécration entière. C'est-à-dire que tout ce qui est de notre vie soit au service de l'Éternel. C'est pour cela que nous sommes sauvés. C'est pour ça que nous sommes libres. C'est-à-dire qu'à travers notre service, vous comprenez que notre service pour Dieu est un acte d'adoration. Quand le Seigneur a dit « laisse partir mon peuple pour qu'il t'adore, pour qu'il m'adore, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve », les deux sont liés. Notre adoration nous amène à connaître davantage le Seigneur, à nous laisser transformer par sa présence afin que nous le servions, mais le fait que nous le servions là où nous sommes, c'est aussi un acte d'adoration. Et puis, il y a un autre passage dans Exode, chapitre 10, versets 8 à 11. Alors, le cœur de Pharaon s'est encore endurci. Il s'est encore endurci, le cœur de Pharaon. Il y a eu des fléaux. Vous savez, c'était un conflit. Ce n'était pas un conflit entre Pharaon et Moïse. Ça n'était pas un conflit entre Pharaon et le peuple hébreu. C'était un conflit, comme on en a aujourd'hui, entre une religion et Dieu. Et l'Éternel Dieu n'était pas prêt à accepter de négocier. Il n'était pas prêt à accepter les clauses d'un contrat avec Pharaon. C'est « tu vas faire ce que je te demande, ce que j'exige de toi, parce que je veux que mon peuple soit libre. Et à travers lui, je manifesterai ma gloire. » Dans Hébreux, dans Exode 10, 8 à 11, « Alors on fit revenir Moïse et Aaron vers Pharaon, et il leur dit, « Allez servir l'Éternel votre Dieu. Quels sont tous ceux qui iront ?» Moïse répondit, « Bon ben, donc vous comprenez que Pharaon est en train de lâcher du terrain à nouveau. Hein? Il est en train de dire, « Ok, on va revenir sur la demande de ton Dieu là. Ok, d'accord, vous allez servir l'Éternel, vous allez aller là où vous voulez, mais qui va y aller ?» Et Moïse, verset 9, répondit, « Nous irons avec nos jeunes gens et nos vieillards, avec nos fils et nos filles. Nous irons avec nos brebis et nos bœufs, et c'est pour nous une fête de l'Éternel. » Alors il leur dit, « Que l'Éternel soit avec vous, comme je vous laisserai aller, vous et vos petits-enfants. Prenez garde, car le mal est devant vous. » Il est en train de leur faire peur. Et verset 11, « Il n'en sera pas ainsi. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est ce que vous demandiez. » Et on les chassa de devant Pharaon. Qu'est-ce que l'on apprend ici? On apprend que Pharaon ne voulait pas que des familles entières servent Dieu. Il ne voulait pas que des familles entières adorent l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a de la puissance dans une famille et à travers une famille qui sert Dieu. La famille est une véritable menace pour l'ennemi de nos âmes, et c'est exactement pour ça qu'il est en train de la détruire. En train de la détruire par le péché d'homosexualité, par le péché du transgenreisme, je ne sais pas ce que l'on dit, en train de par l'euthanasie, par les divisions des familles, etc. Alors qu'est-ce que Pharaon a dit? D'accord, simplement les hommes. D'ailleurs, on se demande pourquoi il y a plus de femmes dans les églises qu'il y a d'hommes. Mais Pharaon a dit, non, ça ne me fait pas peur, qu'ils y aillent les hommes, qu'ils montrent que c'est eux qui adorent l'Éternel. Et Moïse a refusé. Comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je refuse de laisser grand-père à la maison. Non, mais je regarde aucun dans. Je refuse de laisser mes enfants à la maison. Quand je sers l'Éternel, quand j'adore l'Éternel, mes enfants seront là avec moi à adorer l'Éternel. Vous savez, il y a des expériences spirituelles qui se passent quand les familles adorent Dieu. Ensemble. Alors, ça veut dire quoi pour nous, Église du 21e siècle? Où sont les familles à l'Église? Où sont-elles les familles? On accepte aujourd'hui qu'un reste à la maison, qu'un travaille le dimanche, qu'un soit fatigué, qu'un fasse ceci, qu'un fasse cela. Or, nous voyons le parallèle avec le Seigneur, avec le peuple juif. Nous sommes sortis de cet état de séparation d'avec Dieu pour adorer le Seigneur, et je le ferai avec ou sans ma famille, mais mon choix est de le faire avec ma famille. On accepte trop de compromis, nous, Église. On accepte beaucoup trop de compromis. Et en plus, on se justifie. Et on trouve cette excuse, et cette excuse, Moïse était sous la menace de l'homme le plus puissant de son pays. Et il a dit, je refuse de laisser ma famille à la maison. Je refuse de laisser les vieillards aux prises avec les ténèbres. Je vais les amener à la lumière de Dieu. Je vais amener les enfants avec nous dans cette aventure de la foi. On va amener les malades avec nous. Oh, combien je suis contente que Moïse ait fait cela. Combien je suis contente qu'il ait fait ce choix, qu'il n'ait pas fait un compromis avec l'ennemi de son âme, avec l'ennemi de son peuple. Pourquoi? Parce que Dieu pensait à la descendance. Quand Moïse a fait ce choix de sortir du pays d'Égypte par la foi et qu'il s'est laissé conduire par le Seigneur, ça n'est pas parce qu'il pensait uniquement à lui, mais il avait à cœur les prochaines générations. Vous savez qu'il y a des bénédictions qui ne viendront pas autrement que par la famille. Et puis mon dernier point. Exode 10, verset 24. Alors Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel. Que vos brebis et vos bœufs, qu'est-ce qu'on dit, bœufs ou bœufs ? Bœufs, depuis que j'ai hésité, j'hésite. C'est horrible. Alors Pharaon appela Moïse et dit, allez servez l'Éternel et que vos brebis, vos bœufs seuls demeurent. Ok, vos petits-enfants iront aussi avec vous. Vous savez ce qui s'est passé? Non, mais ça c'est... Alors ça, malheureusement, le peuple juif l'a vécu je ne sais combien de fois à chaque fois qu'il a été persécuté dans un pays. Mais je vais vous dire une chose, Église. Si le diable peut vous mentir et vous faire croire que c'est ok d'accepter une telle négociation, eh bien, nous le ferons. Certains, ils... Qu'est-ce que le diable, à travers la bouche de Pharaon, a dit au peuple qui allait sortir des ténèbres, sortir de l'esclavage? Il dit, d'accord, ok, je peux pas. Toi, Moïse, t'es vraiment têtu de chez têtu, quoi. Je te dis, adore dans le pays, tu me réponds non, je veux sortir. Après, je te dis, d'accord, tu sors, mais tu ne vas pas très loin. Tu dis, il est hors de question, j'irai exactement là où le Seigneur m'a appelé à être. Et puis après, je te dis, d'accord. Alors, allez, rien que les hommes. Tu dis, non, on amène tout le monde. C'est tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde ou rien, c'est tout le monde et tout le monde. Et puis maintenant, ils sont sur le point de sortir d'Égypte. Et Pharaon dit, d'accord. Allez, ok, il m'énerve, ce têtu. Il devait être breton. Un petit truc. Ou corse. Qu'est-ce que Pharaon a dit? Il a joué subtil. Il a dit, vous allez laisser vos biens matériels derrière vous. D'accord, partez comme des mendiants, vous n'en portez rien. À chaque fois que les Juifs ont été... persécutés, chassés d'un pays, c'est exactement ce qu'on a exigé d'eux, qu'ils partent sans rien. Mais vous savez qu'aujourd'hui, et Moïse a refusé. Moïse, il a refusé, il a dit, je ne négocie même pas ça avec toi. Je vais partir, je vais aller exactement là où Dieu me dit. Aussi loin que Dieu me dit d'aller, ce ne sera pas dans ce pays. Ce sera dans la liberté totale que je vais adorer Dieu. Que je vais servir Dieu, ce ne sera pas qu'avec une compagnie d'hommes, ce sera avec toute ma famille, toutes les tribus. Ensemble, nous allons sortir de là. Et en plus, nous allons adorer Dieu avec nos biens matériels. Écoutez, il me semble que le parallèle avec l'Église est assez facile à faire. Personne dans l'Église ne devrait faire vœu de pauvreté. Personne. L'argent n'empêche pas d'être pieux, mais la pauvreté ne rend pas pieux. Demandez à tous ceux qui souffrent au Soudan. Mais le Seigneur dit, quand Moïse a dit, non, nous sortirons même avec nos biens matériels, autant qu'on peut emporter avec nous. C'est-à-dire que quand quelqu'un est riche sans Dieu et qu'il accepte Jésus-Christ, Dieu ne lui demande pas de vendre tout, d'aller faire vœu de pauvreté et de servir Dieu et d'adorer Dieu comme ça. Dieu dit non, avec ce que tu as, qui tu as autour de toi et quoi que tu es, rentre dans mon royaume. Et avec tout cela, sers-moi. C'est-à-dire, ne sers pas l'ennemi avec tes biens, sers-moi avec tes biens. Heureusement, c'est ce que Moïse a choisi de faire. Moïse a refusé de faire des compromis. Et puis grâce à cela, le tabernacle a été bâti. Il a servi Dieu, il a honoré Dieu. Et non seulement ils sont sortis avec ce qu'ils avaient, mais en plus, ils ont été demandés des couverts, des toutes sortes de choses à leurs voisins. Et leurs voisins ont été grandement surpris de leur dire « Ah, tu veux m'emprunter ma ménagère ? Non, mais je te la donne !» C'était énorme ce qui s'est passé. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu n'a pas voulu qu'ils l'adorent sans rien, démunis, Mais qu'on arrive, quand quelqu'un arrive, je dirais sous l'autorité de Dieu, dans le royaume de Dieu, c'est comme ça que je peux mieux l'exprimer. Quand quelqu'un se place sous l'autorité de Christ, Christ ne lui dit pas « débarrasse-toi de tout ce que tu as, laisse ta famille de côté ». Il dit « non, viens tel que tu es ». Et c'est ainsi qu'ils ont pu adorer Dieu. Alors nous, dans quel domaine faisons-nous des compromis? On l'a vu, nous sommes sauvés de la mort. Nous avons été sauvés de la mort et nous avons été sauvés pour la vie. Que faisons-nous de cette liberté totale? Est-ce que Dieu est au centre de tout? Est-ce qu'il est notre sujet d'adoration? Est-ce que nous nous préoccupons de notre famille selon les termes de la Bible? Est-ce que nous nous servons de nos biens matériels pour adorer le Seigneur? Ou est-ce que nous apportons notre propre standing dans le royaume de Dieu en pensant que Dieu va bien s'en accommoder parce qu'après tout, je suis chez lui maintenant, donc c'est bon, j'ai passé la porte, je suis sauvé. Pas de compromis. Nous sommes à la fin d'une année. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Est-ce que vous pouvez dire, Dieu a fait de grandes choses pour moi? Oh, il y a combien de choses qui se sont débloquées dans la vie des uns et des autres, cette année spécifiquement. C'est vrai? On est une église victorieuse. Quand on chante victoire à l'agneau de Dieu, victoire que tu m'as acquise, que tu m'as transmise. Et ce n'est pas terminé. Prenons exemple sur le peuple d'Israël, puisque nous allons particulièrement en entendre parler pendant ce week-end. Prenons exemple, la Bible dit que nous devrions apprendre d'eux. C'est peut-être l'occasion ce soir de tirer des leçons et de dire dans quel domaine je devrais faire des ajustements. Moi, je ne suis pas là pour vous dire dans quel domaine. Mais notre conscience est là pour nous rappeler dans quel domaine. Le Saint-Esprit est là pour nous instruire. Mais ce qui est sûr, c'est que le peuple qu'est l'Église est un peuple qui est beau. C'est un peuple qui est équipé, qui a les meilleurs atouts pour réussir dans la vie. Et c'est un peuple que Dieu aime. Oui, Dieu aime Israël, le peuple de sa première alliance. Mais le peuple de la seconde et la dernière, ça c'est l'Église de Jésus-Christ. Et Dieu l'aime. À travers l'adoration que nous apportons à Dieu, par nos vies, par nos biens, par notre temps, par notre obéissance à ses injonctions, eh bien nous l'adorons. Et quand nous l'adorons, que se passe-t-il? Nous sommes transformés de gloire en gloire. Et nous permettons à Dieu de voir son image en nous et nous permettons au diable de se rappeler qu'il a perdu. Amen. Alors voilà. C'est le message que j'avais à cœur, ce que la sortie d'Égypte nous apprend sur nous-mêmes, sur nous l'Église. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu généreux. Et Seigneur, nous voulons que tu vois ton image à travers notre adoration. Seigneur, nous voulons cela parce que nous te sommes reconnaissants. Seigneur, nous élevons nos familles respectives, nous les bénissons, du plus petit jusqu'au plus grand, nous bénissons chaque membre de notre famille. Nous voulons tous qu'ils te connaissent, Seigneur. au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous de comprendre l'importance de la famille. Donne-nous, mon Dieu, de ne pas faire de compromis en ce qui concerne cette famille, afin que les familles, mon Dieu, puissent montrer ton image, porter ta gloire. Seigneur, nous sommes là pour te servir, pour refléter ton image, Seigneur. Te bénissons de nous avoir attirés à toi. Te bénissons de faire partie de l'Église universelle, où qu'elle soit. Seigneur, apprends-nous à utiliser cette liberté que tu nous as donnée. C'est peut-être le moment pour que chaque personne qui le souhaite renouvelle sa consécration à Dieu. Se consacrer, ça veut dire accepter d'être mis à part pour son service. Mais Dieu ne peut pas nous forcer à le faire. Et on ne peut pas consacrer les autres. C'est un choix qui doit être personnel. Que de dire, Seigneur, montre-moi comment je peux mieux t'adorer. Comment je peux mieux te servir. Comment je peux me laisser utiliser par toi au point que ton image en moi soit visible à ceux qui ne te connaissent pas. Nous te donnons la gloire. Nous te donnons la gloire, Père, au nom de Jésus.